France Inter.
Le journal, François Chagnaud, bonjour.
Bonjour à tous. Une semaine après l'attaque massive de l'Iran sur Israël, l'État hébreu ne commande pas les bombardements en Iran et en Irak cette nuit. Les États-Unis démentent être impliqués. Une incertitude très pesante pour les habitants du nord d'Israël, vous l'entendrez avec le reportage de nos envoyés spéciales. Marine Le Pen en terrain conquis aujourd'hui. La députée Rassemblement National mène campagne à Mayotte, un département déjà acquis à sa cause. L'opération Place Net en cours dans l'île à Mayotte, donc inquiète l'UNICEF. Le géant pharmaceutique Sanofi taille dans ses effectifs, une pilule difficile à avaler pour ses salariés en France. Et puis en fin de journal, on vous emmène dans les airs, les cieux du Pas-de-Calais aux côtés des cerfs-volants. Et après ce journal, votre invité Ali.
À 8h20 dans le grand entretien, Israël, Iran et après on en parlera avec le diplomate Gérard Haraud. Il a été ambassadeur de France en Israël et il publie un livre passionnant, Israël, le piège de l'histoire, aux éditions Talendier. Vos questions, vos réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou dès maintenant sur l'application France Inter.
France Inter.
Israël se refuse donc ce matin à tout commentaire 24 heures après les explosions en Iran près d'une base aérienne d'Ispahan. Même posture après le bombardement cette nuit en Irak d'un camp de miliciens pro-iraniens. Les États-Unis, eux, nient toute implication. Alors le scénario le plus plausible, c'est celui de représailles de l'État hébreu une semaine après les salves massives de drones et de missiles lancés par Téhéran. Mais au milieu de ce flou et de ces silences se trouvent les populations du nord d'Israël, comme dans la ville arabe chrétienne de Jish, à 5 km de la frontière libanaise. Les habitants vivent au rythme des sirènes et des alertes à la bombe. Les enfants ont désormais cours dans des abris. C'est reportage de nos envoyés spéciaux à Jish, à Gérard Mohamed, Sandrine Malon avec Alexandra Vardy.
Dans cette école de Jish, les cours et la plupart des activités périscolaires se déroulent désormais dans un abri anti-bombe aux portes blindées. Nebal Nejim est la directrice du centre aéré.
Nous avons des matelas dans l'abri, des jeux créatifs, on a de l'eau. Quand les enfants sont là, ils ont de quoi s'occuper.
Et quand l'anxiété gagne les petits, sa collègue Sama Achoul tente de les rassurer.
On les aide. S'ils ont besoin de câlins après les exercices ou après les vraies alertes, on leur met de la musique pour les calmer. Du férouz, vous connaissez ? C'est dans notre culture. Chaque jour est un nouveau défi.
À Jish, même s'il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation officiellement, certaines familles sont parties d'elles-mêmes. Mais Ibrahim, papa d'un garçon de 5 ans, lui refuse de s'en aller.
La routine, c'est important, surtout pour les enfants et leur équilibre psychologique. Pour nous aussi, les parents, car c'est compliqué de jongler avec tout ce qui se passe.
S'il continue de déposer son enfant à l'école tous les jours, c'est pour garder un peu de sérénité, un peu de normalité dans le quotidien de son fils.
Reportage de nos envoyés spéciales Ajra Mohamed, Sandrine Malon avec Alexandra Vardy. L'Ukraine ne peut plus attendre les mots de Volodymyr Zelensky qui exhorte l'OTAN à fournir des armes et vite. Kiev attend toujours une aide militaire de 61 milliards de dollars promise par les États-Unis. Les Ukrainiens seront fixés aujourd'hui. Les élus de la Chambre des représentants américaines doivent enfin voter cette enveloppe. Les guerres en Ukraine au Proche-Orient percutent de plein fouet la Biennale d'art contemporain qui s'ouvre aujourd'hui à Venise. Plus de 300 artistes participent à cette 60e édition. Et dès la préouverture à la presse et aux professionnels, les échos de ces conflits en cours étaient puissants, Bruno Duvic.
Une manifestation pro-palestinienne à la Biennale. Les prospectus rouges se retrouvent devant le pavillon israélien. Il est fermé. C'est une décision des exposants tant que la guerre continue. Les festivaliers, comme Louise, s'interrogent quel est le rôle de l'art dans ce contexte.
À partir du moment où c'est la décision des artistes de le conserver fermé, ça me paraît d'abord être une liberté qu'ils peuvent exercer. Mais depuis Venise, effectivement, peut-être que la voie ne portera pas si loin que ça.
Derrière la vitre, dans une installation vidéo, des statues semblent défiler pour la paix. Rita, venue d'Allemagne, est recueillie.
Le pavillon d'Israël, c'est une prolongation de citoyens d'Israël, je pense.
La Russie est absente, l'Ukraine est là. La vie culturelle y reste active, selon l'un des commissaires de l'exposition, Maxime Gorbatsky.
Les artistes produisent des œuvres, certains ont rejoint l'armée, et les spectateurs savent où se réfugier en cas d'alerte aérienne, mais après ils retournent aux expositions.
Dans le pavillon polonais, sur un grand écran, des réfugiés reproduisent le bruit des bombes qu'ils ont fuies. Une vieille dame n'arrive pas à s'arrêter.
Bruno Duvic. En France, Marine Le Pen en campagne à Mayotte. Aujourd'hui, la députée Rassemblement National vient soutenir son poulain, actuel président du parti et tête de liste aux européennes, Jordan Bardella. Alors Lille est en pleine opération Place Nette qui vise à interpeller des délinquants et expulser les sans-papiers majoritairement comoriens. Alors Marine Le Pen arrive en terrain conquis car à Mayotte, plus qu'ailleurs en France, le discours anti-immigration du RN fait mouche, Audrey Tison.
Son message est simple, j'ai un plan complet pour sauver Mayotte. Et ça commence par la suppression du droit du sol, la fin des aides aux étrangers et un véritable bras de fer avec les Comores pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. D'après elle, ce ne sont pas les mesures du gouvernement qui mettront fin à ce que Marine Le Pen considère comme une submersion migratoire. On vide la baignoire à la cuillère tandis que le robinet est ouvert en grand, dit la députée. Elle émet des doutes, notamment sur l'action des bateaux qui doivent surveiller les traversées entre les Comores et Mayotte. Vont-ils vraiment repousser les embarcations de migrants ? Comme à chaque fois, le gouvernement est plus intéressé par la communication que par l'efficacité. Ils font des petits trucs sans stratégie cohérente, tacle Marine Le Pen, qui propose une alternative, installer un centre de rétention administrative flottant sur un bateau pour éviter que les migrants ne touchent le sol français.
Et pendant ce temps, l'opération Place Nette à Mayotte se poursuit donc. 1700 gendarmes sont déployés dans l'île depuis mardi, des policiers également, avec un double objectif, lutte contre la délinquance et l'immigration clandestine. Dans un appel publié hier, l'UNICEF dénonce une nouvelle escalade sécuritaire un an après l'opération Wambushu. L'ONG alerte donc sur les risques sanitaires pour les enfants. Sa présidente Adeline Hazan demande le relogement de toutes les familles alors que 1300 habitations doivent être détruites lors de cette opération Place Nette.
Elle intervient dans un contexte sanitaire déjà extrêmement dégradé, avec la sécheresse, les problèmes d'eau et puis un début de choléra. Notre inquiétude, c'est que la précédente opération Wambushu avait abouti à une destruction en 2023 de 700 cases et malheureusement seulement 120 familles relogées, c'est-à-dire moins de la moitié des personnes relogées. D'ailleurs, la loi Elan oblige à reloger les personnes. À Mayotte, déjà 8 enfants sur 10 sont en situation de grande pauvreté, alors que la moyenne nationale, c'est 2 sur 10. Donc, vous imaginez déjà la situation des enfants. Donc, nous, ce que nous demandons en priorité, c'est que avant de détruire ces cases en tôle, eh bien, il y ait des enquêtes sociales avec objectif de rescolarisation des enfants ailleurs. Or, malheureusement, ça n'est pas ce qui se fait.
Cette opération Place Nette à Mayotte doit prendre fin au mois de juin. La piste du guet-apens se confirme à Grande-Synthe dans le Nord 5 jours après la mort de Philippe, ce jeune homme de 22 ans passé à tabac. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire hier soir. L'inquiétude des salariés de Sanofi, le géant pharmaceutique, va supprimer 1200 emplois dans la recherche et le développement, dont 331 en France d'ici l'an prochain. C'est déjà le troisième plan de départ en 5 ans, Julien Morcelli.
Les salariés se disent habitués au plan de départ.
Sanofi, les suppressions de postes, c'est un éternel recommencement.
Jean-Louis Perrin, secrétaire de la Fédération nationale CGT des industries chimiques, est lui-même salarié Sanofi.
Depuis 2008, Sanofi a perdu quasiment 50% de ses effectifs en recherche. C'est une catastrophe et le pire dans tout ça, c'est que quand on regarde la branche industrie pharmaceutique d'angle global, sur les 12 derniers mois, c'est plus de 1200 suppressions de postes.
Sanofi justifie ces suppressions par l'arrêt de la plupart de ses programmes de recherche en cancérologie après une succession d'échecs. L'entreprise veut désormais concentrer ses efforts sur l'immunologie où elle obtient des résultats plus prometteurs. Un désastre social qui aurait pu être évité, dénonce Jean-Louis Perrin.
Quand vous avez un secteur qui marche mal, il faut déjà se poser la question pourquoi il marche mal. Parce que depuis 2008, en oncologie, on ne fait que diminuer les effectifs. Donc il y a un moment où quand vous n'avez plus la force de recherche, vous ne trouvez plus. C'est Sanofi qui a lui-même tué son service recherche en oncologie.
L'entreprise assure de son côté que ce changement de stratégie stratégie ne se fera pas au détriment de la France, qui concentre un tiers de ses investissements en recherche et développement.
Et selon la CGT, les sites les plus touchés par ces suppressions sont ceux de Vitré-sur-Seine, près de 300 postes et dans une moindre mesure, Montpellier et Gentilly. Le ciel du Pas-de-Calais se pare de ses plus belles couleurs. Ce week-end, c'est aujourd'hui le coup d'envoi des rencontres internationales du cerf-volant à Berck. Alors au menu de cette 37e édition, des compétitions, des démonstrations et 700 000 visiteurs sur 10 jours. Comme cette famille de fous du cerf-volant que vous avez rencontré, Alice Marot.
Une immense pieuvre violette se déploie dans le ciel. C'est le cerf-volant géant que Yannick et son fils Alex sont en train d'essayer de dompter. Yannick la regarde flotter avec fierté. La passion du cerf-volant, il l'a depuis tout petit.
Je partais à l'école, mon père avait un grand champ, je mettais le cerf-volant, je revenais de l'école, il était toujours là. Puis après, bah voilà, les enfants, ils suivent papa, bien sûr. Hein.
Pendant que le papa surveille le géant de 35 mètres, à l'autre bout du fil, le fils Alex la tient à bout de bras.
Là, ça commence à tirer, ouais. Je suis en train d'essayer de le tenir, mais vous maintenir dans le vent. On est comme des enfants hein, quand on a ça sous les yeux.
Lui est même devenu professeur de kitesurf et il ne se sépare jamais de son équipement de cerf-volant.
Dès que les conditions sont là, c'est parti, on prend la voiture, on voit la plage. Même au travail, on est sur l'application météo. On attend le soleil, le vent, puis on est parti.
Alors forcément, pour la famille, le moment du festival, c'est un peu comme Noël. Leur camping-car est rempli à ras-bord de dizaines de sacs de cerf-volant de toutes les tailles et de toutes les couleurs.
Donc on a les sacs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ouvre, voilà, c'est le Père Noël est passé. On retrouve les copains, parce qu'il y a des copains qu'on ne voit pas tous les jours, puis voilà, on fait voler.
Ils seront sur place jusqu'au week-end prochain dans leur camping-car pour ne surtout pas rater une miette de l'événement.
Alice Marot de France Bleu Nord pour France Inter.
Il est 8h12, le journal des sports.
Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Après la liesse européenne pour le PSG et l'OM cette semaine, place maintenant à la Ligue des champions féminine et un choc franco-français.
Un classique même de notre championnat, Lyon contre le Paris Saint-Germain. Demi-finale aller entre l'ogre lyonnais et ses 8 titres face au PSG, l'éternel prétendant. Une affiche entre deux équipes qui se connaissent par cœur et qui va attirer du monde ce soir au Groupama Stadium avec Jean-Pierre Blimeau. Un nouveau record d'affluence pour l'enceinte lyonnaise.
Plus de 35 000 personnes vont assister à ce choc. Jamais une équipe féminine de l'OL n'avait encore réuni autant de monde dans le stade habituel où évoluent les joueurs de Lyon. Une fierté pour la capitaine de l'OL et de l'équipe de France, Wendy Renard.
On a travaillé dur pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré au sein du club pour pouvoir atteindre ce genre de performance. Maintenant, il faut que ça perdure dans le temps. Et pour ça, c'est à nous, jouer sur le terrain, de leur donner envie de pouvoir revenir et de créer ce lien avec eux.
Wendy Renard, qui se réjouit aussi de retrouver ses sensations, sérieusement blessée à la cuisse fin décembre, la tour de contrôle de la défense lyonnaise revient peu à peu à son niveau depuis son retour sur les terrains fin mars. Des deux équipes, seul le PSG est encore en lice sur les trois tableaux, la Ligue des Champions, le championnat, mais aussi la Coupe de France. Mais comme les Parisiennes n'ont pas réussi à vaincre l'OL cette saison en championnat, l'attaquante internationale du PSG, Marie-Antoinette Katoto, veut faire chuter ses meilleurs ennemis.
Toutes les personnes dans l'équipe sont déterminées à faire une très grande saison. On s'est donné la chance de rêver très très grand, donc on va tout faire pour montrer que cette saison, elle a été fantastique.
L'OL et le PSG vont s'affronter pour la 7e fois en Ligue des Champions. Les Parisiennes n'ont réussi à sortir les Lyonnaises qu'à deux reprises en 2014 et 2021.
Toujours en foot, la 30e journée de Ligue 1 a démarré hier soir avec le large succès de Nice sur Lorient. 3-0, victoire la plus nette de la saison pour des Niçois qui se relancent dans la course à l'Europe. Lens tentera de les imiter ce soir en accueillant Clermont, la lanterne rouge du championnat. Et puis soirée de gala hier pour le stade Bauer à Saint-Ouen en banlieue parisienne. Le Red Star, pilier du foot en France, retrouve la Ligue 2 cinq ans après, malgré sa défaite contre Dijon 2-0.
Une grosse ambiance en perspective aussi ce soir au Vélodrome de Marseille, investi cette fois par les rugbymen, Jérôme.
Oui, ceux de Toulon et de Toulouse pour le sommet de la 21e journée de Top 14. Toulouse qui a décidé, après sa démonstration il y a une semaine en Coupe d'Europe, bien de changer toute son équipe. L'occasion pour des joueurs peu en vue de se montrer, comme l'ouvreur Baptiste Germain, dont la compagne n'est autre que la fille de Bernard Tapie. Et donc jouer à Marseille au Vélodrome, c'est forcément particulier.
Bien sûr, je pense qu'il y aura la belle famille dans les tribunes. Ça rajoute une petite pression, mais c'est ça qui est bon. C'est vraiment incroyable. C'est sûr qu'il va pas falloir attendre la 20e minute pour se mettre dans le match avec, en plus de ça, des supporters toulonnais dont on connaît la réputation. Il va falloir prendre nos marques puis s'envoyer à fond dès le coup d'envoi.
Et parmi les autres affiches du jour, le Stade français, le leader, joue contre Bayonne. Et puis, il avait été porte-drapeau français pour les JO de Tokyo et il est donc qualifié maintenant pour ceux de Paris. Le gymnaste Samir Aït Saïd a décroché sa place en terminant 3e de la finale. finale aux anneaux de la Coupe du Monde, lui qui avait été, on s'en souvient, si malheureux en 2016 en se brisant la jambe, qualifié aussi pour les Jeux de Paris. Jean-Ki Campoy, le champion olympique de vitesse en tir au pistolet.
Merci Jérôme Val.
C'était le journal de François Chagnot, il est 8h15, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Camille Esnault, un beau soleil pour débuter le week-end pour l'ouest du pays.
Oui, l'ouest et le sud de l'Île-de-France. Au centre, les éclaircies seront également belles. Par contre, ça se gâte à l'est. Avec ce matin des averses près des frontières du nord, du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et de la neige aussi sur les massifs. Dans l'après-midi, ces averses tournent à l'orage en descendant vers les Alpes-Maritimes jusqu'à la Corse, où la grêle pourrait tomber localement. Le Mistral se lève dans la journée jusqu'à 100 km/h en rafale. Et sur le sud-ouest, le ciel restera couvert sous de nombreux nuages.
Et les températures continuent leur baisse.
Oui, avec cet après-midi, une baisse significative. On ne dépassera pas les 20 degrés dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. 14 à 18 sur la façade atlantique et 9 à 12 sur un quart nord-est ce matin. Cette baisse ne se fait pas encore vraiment ressentir avec 3 à Amiens, 4 à Rouen, 5 au Puy-en-Velay, 7 à Lorient, 8 à Bordeaux et 10 à Nice.
Merci Camille. Il est 8h16, géopolitique.